moi qui me demandais comment repartir ce show-là. Pascal qui me dit « Hey, en fin de semaine, j'ai lu un article là, sur les pénis courbés. Hein? » Bon lundi, 13h17.
C'était dans un magazine slash d'actualité près de chez vous.
Ouais.
Et j'étais surprise, je n'ai pas cliqué. Je me suis dit que j'avais d'autres chats à fouetter.
Mais c'est pour ça que les filles lisent le clin d'œil.
Non, c'est pas dans ce genre de magazine-là. C'est vraiment dans un endroit d'actualité.
C'est dans un endroit d'actualité.
Oui. Une page d'actualité comme un genre de Journal de Québec, Le Soleil, La Presse, Radio-Canada,
okay.
Le Monde. Ouais, il y a des gens qui ont décidé de s'attarder là-dessus parce qu'il y a...
Puis qu'est-ce qu'ils disaient?
J'ai pas cliqué longtemps là-dessus.
Ils ont-tu écrit la vie n'est pas toujours une ligne droite?
Après le premier paragraphe où on me disait que c'était une condition et que ça se courbait de plus en plus, plus l'homme vieillissait.
Hein?
Je jure! J'ai vu que ça pouvait mener à une maladie et ça pouvait provenir d'une maladie ou de juste une hérédité. Mais après, Yannick, j'avais d'autres chats fouettés.
Docteur Chabot.
Moi, ce que je trouve
merveilleux... Comment c'est possible qu'un pénis puisse courber avec l'âge?
Mais si tu l'avais déjà courbé, de ce que j'ai compris dans le seul paragraphe
sans
que
pire.
J'ai lu, ça... Oui.
Mais ça va jouer dans les coins, ça a l'air.
Oh.
Mais la fée, elle nous dit, tu sais, « Ah, j'ai pas lu l'article. » Non, non, j'ai vu ça passer. Là. Puis après ça, elle te le décrit.
Au complet.
Paragraphe par paragraphe.
Le premier paragraphe, là, il y avait du stock là-dedans.
Mais j'essaie de faire découvrir la belle personnalité de Pascal en ondes, puis c'est difficile.
C'est plein de surprises.
Exact. Parce que
c'est un feu d'artifice.
Je suis dans un endroit d'actualité, puis il me pousse ça. Je me dis, il y a une épidémie,
Oui.
Il y a une problématique,
il y a quelque chose
d'actualité là-dedans.
Elle dit un endroit d'actualité, tu sais, elle cite Le Monde. Je m'excuse, mais ça, c'est pas sur Le Monde que t'as lu ça. Là. C'est genre le sac de chips. Là.
Non, je te le jure. Okay. Je te jure.
Mais je remets pas ta crédibilité en doute.
Hey, moi, je suis un journaliste d'enquête, tout le monde sait ça. Ouais. Près d'un homme sur 10 a un pénis courbé. Ça s'appelle la maladie de l'apéronie.
Oui, ça, c'est une des raisons du pourquoi, selon le premier paragraphe, quand tu cliques. Je comprenais pas pourquoi c'est dans l'actualité. C'est pour ça, je me suis dit, si c'est dans l'actualité, je vais lire. Il y a quelque chose à saisir de ça.
OK.
Moi aussi, je gratte d'un coin, Yannick. Je vois d'un coin et je veux tout savoir. Je suis curieuse, mais à un moment donné, il y a la curiosité à une fin.
OK, hey, mais un homme sur 10. C'est une affection assez banale qui touche la plupart des hommes, à un degré ou à un autre. Il est normal que le pénis ne soit jamais totalement droit lors d'une érection.
On va plus loin, là.
Chez certains hommes, cette courbure est un peu plus importante. Et ils la remarquent, donc un peu plus. Se demandait souvent si elle est normale.
Je m'excuse. À mes parents qui ont payé mes études.
Fait que ça peut dépendre, Pascal, de l'hérédité.
Oui.
Fait que
comme
si tu rencontres quelqu'un qui a un pénis courbé.
Peut-être que son père aussi.
Papa l'a peut-être aussi.
Ou grand-papa.
Ça change la dynamique d'un souper de famille, ça.
Toi.
Ça peut être la maladie de la péronie.
Exact. Tu vas voir la phrase où ils disent que ça courbe de plus.
Ouais, tu l'as lu jusqu'au bout, là. Arrête,
non!
Pascal.
C'est le premier paragraphe.
Contagion. On me dit que le pénis courbé n'est pas contagieux.
Donc, David, tu ne l'attraperas pas dans le studio-ci.
OK, je suis rassuré, là, parce que là, je commençais à...
Ouf. Quels sont les risques de complications? Hey, c'est du stock là-dessus.
Mais on avait un super bon sujet avec David Chabot, hein?
J'avais pas prévu de parler de courbure pénale. Pénale. Non, mais pénale, c'est plus la prison, non?
Oui.
Phallique, on va dire.
Exact.
Courbure phallique. Ouais. Tain, on va risquer le mot.
On a-tu du vocabulaire, ça? Fait que c'est tout, Pascal? On n'a rien d'autre à apprendre?
C'est tout.
Bon.
C'était la minute.
On peut travailler en paix maintenant?
Hey!
C'était la minute l'Évangile en papier.
Hey. Elle m'écrit ça sur ma feuille. Absolument parler.
Arrête!
C'était écrit textuellement.
J'ai jamais.
Elle bloque ses lignes.
David Chabot, tu
oui.
voulais revenir sur les ingrédients pour réussir les projets majeurs.
Oui, parce que ben là, la semaine passée, on a parlé du troisième lien. Je suis pas ici pour te parler du troisième lien parce que c'est un sujet toasté des deux bords. Mais ma réflexion, là, c'est de me dire tout le temps, pourquoi c'est compliqué de faire des grands projets au Québec? Puis je suis pas le seul à se poser la question. Tu dois la poser à tous les jours sur les ondes du FM ici.
Les choses, particulièrement à Québec, avancent très lentement.
Ouais.
Et je m'explique mal pourquoi.
Moi, l'ingrédient numéro un de ce que je veux te parler, là, c'est que en termes d'acceptabilité sociale, okay, on fait toujours l'erreur qui est comme classique, puis ça, c'est vrai dans le privé aussi, c'est pas juste dans le gouvernemental, d'essayer de faire passer le projet une fois qu'il est dessiné. Okay? Fait que là, dans le cas du tramway, là, je suis pas en train de juger les projets, je juge le processus. Okay? J'étais à la présentation en mars 2018, je pense, du projet, quand Philippe Couillard puis Régis Labeaume a annoncé c'était quoi le projet du tramway. Puis on nous a annoncé le projet en disant « Tiens, c'est réglé, ça va bien aller. » Tu comprends?
Oui.
Quand Régis Labeaume avait dénigré un projet de tramway pendant longtemps, ainsi que Anne Guérette pendant longtemps,
exact.
Qui s'assoyait sur ce projet-là.
Puis ça, c'est un gros problème qu'on a parce qu'on se fait présenter le résultat. que c'est souvent quelque chose de rigoureux. Là. Je suis pas en train de dire que c'est tout le temps fait sur une napkin, mais on arrive et on dit ben ça va être ça. Fait que maintenant, ben, faisons des consultations là, pour vous expliquer pourquoi c'est la bonne solution. Alors que tout bon projet, majeur, qu'il soit privé ou public, c'est avant que tu vas faire ta consultation. C'est avant que tu vas chercher des idées. C'est là que tu vas présenter de la donnée puis tu vas dire ben voici pourquoi on a besoin d'avoir, en l'occurrence, un transport structuré à Québec.
Ça a-tu changé, ça? Parce que tu travailles en politique, as-tu vu un switch à un moment donné où on a commencé à faire ça de cette manière-là au lieu de continuer à demander et consulter les citoyens et citoyennes?
Ça a toujours été comme ça. Là. C'est, je veux dire, ce que tu veux, finalement, c'est une opération de marketing pour mousser ta bonne idée. T'sais. Fait que c'est sûr que tu n'as pas intérêt à rentrer le citoyen avant que ce soit fait parce que là, tu veux avoir ta belle annonce. Mais on parle de plus en plus d'acceptabilité sociale, puis on parle du BAP, puis de l'environnement, puis des projets majeurs, Nordvolt, etc. Puis on dirait qu'on n'apprend pas de ça, alors qu'il y en a dans le privé, puis là, je ne veux pas nommer, puis je suis un peu chauvin là-dedans, on le sait, là, qu'ils mettent tout l'effort avant, ça finit que là, tu vas ramasser premièrement des bonnes idées, parce que c'est pas vrai que la population a juste des idées de cave, là, on se comprend, puis tu vas aller déterminer c'est quoi les besoins, puis tu vas embarquer le monde dans ton processus pour dire « OK, c'est là qu'on s'en va, parce qu'on a tel besoin, puis là, la statistique justifie ça, puis là, ben, on est allé voir dans le monde, puis voici les solutions, puis qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Puis entre ça et ça, qu'est-ce que vous préférez? Okay? Fait que ça, c'est la première étape qu'on fait jamais. On fait juste des shows de marketing, puis après ça, on jongle avec la patate, puis on engage des firmes de com, puis on essaie de faire de quoi de lâcher.
C'est drôle, parce qu'on fait à peu près la même affaire dans le public aussi. Là. Plutôt que d'aller voir les gens qui sont en théâtre de guerre, là, dans le merveilleux monde de la santé, on décide ça en haut lieu, puis on dit ben voici les nouvelles façons de fonctionner. Puis là, ça descend dans la pyramide, puis là, ceux qui sont touchés, c'est-à-dire ceux qui travaillent en milieu de guerre, là, les infirmières, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, disent hey, voyons donc, ça, on peut pas travailler de même. Ouais. C'est impossible, on peut pas appliquer ça. Puis là, eux autres sont en haut. Oui, vous pouvez le faire, mais ils n'ont jamais été consultés. C'est un peu gênant. Tu sais, quoi que de plus en plus, il y a des médecins, dont une de nos collaboratrices, qui s'implique de plus en plus en haut lieu, Dr. Élise Berger, qui monte les échelons pour aller jaser avec ces gens-là en disant voici de quelle façon on pourrait améliorer le système de santé. Mais bien souvent, ils font le contraire. C'est tout en haut, puis ça descend en bas, puis c'est à peu près à même affaire quand c'est le municipal qui le fait.
Exact. Puis là, ben, tu sais, dans ce cas-ci, je te parle de projet d'infrastructure, mais tout ce qui touche les gens directement, il faut que tu aies un buy-in au début. Il faut que tu t'assures que dans le processus, ils comprennent aussi que tu t'en vas avec ça. Fait que ce que tu dis est tout à fait vrai. Puis là, c'est peut-être du management. Je ne veux pas me lancer dans une grande théorie de management, mais un peu la méthode Toyota, là, que tu vas faire des sous-groupes qui vont se pencher sur un point précis puis ils vont ramener la solution. Mais bref, tout ça pour dire que l'acceptabilité sociale, on l'escamote souvent puis c'est extrêmement important en amont et non pas en aval. Deuxième point, il y a peut-être un an de ça, là, les ministres du gouvernement se promenaient avec un livre orange qui s'appelait How Big Things Got Done. Okay? Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Là. Puis là, on a fait un show avec ça, puis on dit hey, on lit ça, puis c'est une référence. Puis c'est vrai que c'est un bon livre. Okay? Là, je ne l'ai pas lu en entier, manqué de temps, passé sur d'autres choses, mais grosso modo, la thèse principale de ce livre-là, c'est de dire au lieu de penser pas longtemps puis réaliser longtemps, pense longtemps puis réalise pas longtemps. Puis ce que ça veut dire en français, là, c'est que ta planification, l'analyse du besoin, puis après ça, quand tu fais les plans pour vrai, là, puis que tu designes ton infrastructure, là, prends le temps que ça va prendre pour te rendre jusqu'à la fin de tes plans. Là. Puis après ça, tu vas avoir tellement bien conçu ton projet que quand tu vas l'exécuter, il n'y en a plus de surprises. Parce que tu sais, souvent, les surprises, c'est en dessous du sol. Là, on parle de faire un tunnel. C'est sûr qu'en dessous du sol, tu vas avoir des surprises. Là. Tu vas déterrer des cadavres de façon figurée ou réelle. Là, parce que tu as toujours quelque chose que tu ne peux pas faire du carottage à chaque 22 cm pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Tu comprends? Donc là, c'est le genre de problème d'exécution que tu peux avoir. Quand tu as une infrastructure comme un hôpital, c'est tellement compliqué parce que tu as de la tuyauterie partout puis des tuyaux d'oxygène, puis etc. Il faut que tu aies le temps de bien le concevoir puis pas rusher ton projet puis d'arriver au bout. Puis là, quand tu pars le chantier, tu te dis que ça a pris juste un an, mettons, planifier ça. Puis là, ça s'étire dans le temps parce que tu trouves des problèmes. Les ingénieurs se sont pas parlé, les professionnels se sont pas parlé, puis là, tu es mal conçu. Fait que ça, c'est mon deuxième ingrédient, si tu veux. Puis le troisième, ben, c'est nous autres, la population. Faudrait être un peu plus patient. Parce que souvent, dans le cas, mettons, du troisième lien, on l'a été pas mal. Là.
Dans le cas de la peinture sur le pont de Québec, d'après moi, on était assez patient.
Ouais. Oui, parce que là, c'est un jeu politique.
Dans le cas des réparations sur le pont de Québec, on était assez patients. Dans le cas des négociations, à savoir le pont de Québec appartient à qui, il va se transférer dans les mains de qui, quand est-ce que ça va se faire, à quel coût, on était assez patients. On est très patients. Le 3, on a comme une bonne base là, pour ce qui est la patience.
Ça dépend pourquoi, OK? Parce que là, ça vient de se faire le transfert. OK? Fait que là, on s'attend à des résultats. Mais là, planifier ces travaux-là, là, ça se fait pas en deux semaines. Là. Parce qu'on se dit, c'est juste de la peinture, on en tape peu, parce que là, ils vont pas juste faire de la peinture, là, ils vont changer des éléments structuraux que ça. Tu peux pas juste faire ça sur une napkin dans un coin de table, tu comprends?
Tu sais pas c'est quoi qui va t'attendre aussi une fois que tu vas commencer.
Exact, exact, parce que tu peux pas avoir inspecté chacun des centimètres carrés du pont. Fait que là, quand tu vas arriver dans la réalisation, ben si t'as pas planifié correctement, parce que tu as eu de la pression populaire, parce que nous autres, on veut des résultats, parce qu'on paye pour des taxes puis tout ça, ben là, tu vas arriver avec des surprises, tu vas te péter la gueule, tu vas défoncer les budgets, puis là, ça va finir que ça va être encore une situation où on se dit, bon, le gouvernement est pas capable de gérer ses projets, tu sais. Fait que là, nous autres, on a un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est plate comme argument parce qu'on veut des résultats. On paye des taxes, on veut des résultats, je l'ai dit tantôt. Mais dans la vraie vie, à un moment donné, tu sais, il faut faire confiance à un certain processus s'il est transparent, que tu as buy-in depuis le début, puis que tu le sais que la planification s'est faite de la bonne façon.
Est-ce que c'est propre à la région de Québec de travailler autant de travers? Parce que Montréal, on dirait que ça va plus vite. Là, on a besoin d'un pont, ben on détruit celui-là qui est en place, puis on le remplace, puis on se casse pas la tête. Ici, c'est tout le temps long. Puis on dirait que plus tu t'éloignes de Montréal, c'est tout le temps plus long, tous les projets. En région, là, tu sais, j'ai longtemps travaillé en Beauce, c'était la même affaire. On voulait un projet, là, c'était compliqué. Puis les politiciens veulent pas nécessairement être impliqués dans ce type de dossier-là, parce que, bon, ils se disent, je serais pas capable de monter mon dossier jusqu'en haut. Mais Montréal, ça semble aller plus vite à Montréal qu'à Québec.
Oui, bien, il y a deux facteurs dans ce que tu dis, OK? Quand c'est de l'entretien d'actifs là, déjà existants, c'est pas mal plus facile que de créer des nouvelles infrastructures. Ce qui ne veut pas dire qu'à Montréal, il n'y en a pas des nouvelles. Il y en a toutes les semaines, mais tu comprends que, mettons, Turcot, c'est une maintenance d'actifs. Fait que là, il n'y a pas un grand débat à avoir. Il faut la garder, fait qu'il faut l'entretenir. Ça, c'est une chose. Deuxième affaire, c'est que les gouvernements font toujours la même erreur. Ils rentrent par les régions, puis ils sortent par Montréal. Fait que là, ils vont se faire élire par les régions, par un programme de centre-droit, de conservatisme un peu fiscal, puis tout ça. Arrive au pouvoir, puis là, t'essaies de séduire la région que t'as pas gagnée, parce que, de facto, si tu rentres par la droite, t'as pas gagné Montréal, là, parce que c'est un peu antinomique. Puis là, ben, t'essaies de gagner cette grande région-là à grands coups de projet, puis d'infrastructures de transport collectif. Puis ils se pètent toute la gueule en faisant la même affaire à toutes les fois. C'est arrivé. Puis ça c'est un rêve que je chéris. Là, je veux amener, formuler une thèse par rapport à tous les gouvernements qui ont passé depuis, mettons, la Révolution tranquille. Puis je suis assez convaincu de ce que je te dis, que ça a toujours fait la même affaire. Tu rentres avec un programme de « je gère sainement les finances, puis je vais faire des projets raisonnables, puis tout ça ». Puis après ça, ça part en vrille souvent parce que c'est l'influence de Montréal qui tire vers la gauche, puis tu te fais sortir après ça.
Ouais, puis là, ils veulent faire en tout cas, ils veulent faire quelque chose de semblable. Ils veulent trouver un nouveau chef pour le Parti libéral qui va être capable probablement d'attirer les gens de Montréal. Hein, Juan Pablo. Juan Pablo avec sa belle chevelure. Pablo Rodriguez, en fait. Mm-hmm. Lui, il va partir du fédéral, il va s'en venir au provincial pour un parti qui a déjà gagné Montréal, mais Pablo, il passera pas là, à cette île.
Ben,
Pablo,
ça.
Il passera pas en Gaspésie. Pablo, il passera pas au Saguenay. Pablo, il passera pas en Beauce. Il va gagner juste Montréal.
Ce qu'il essaie de faire là-dedans, c'est d'avoir un certain vernis d'un gars qui est déjà un peu populaire. Moi, personnellement, c'est pas mon préféré, là, mais bon, c'est mon
À partir du moment où ils vont dire hey, est-ce que vous regardez les finances là, vous avez été pour Justin Trudeau pendant des années. Qu'est-ce que vous voulez faire au Parti libéral du Québec, qui a toujours été le parti de l'économie au Québec, là, le Parti libéral?
Ben oui, en théorie, parce que ça verrait un peu différemment.
Ouais.
Après, là, mais...
Et lui, c'est une catastrophe, là.
Oui, puis ça, on change un peu de sujet, mais ça va être intéressant de voir cette course à la chefferie-là, voir jusqu'où ils vont aller déterrer en arrière. Parce que c'est tout le temps ça, tu sais, quand un politicien, mettons, d'expérience qui a fait ça dans une carrière, c'est sûr qu'il a tout le temps été dans. Ben, il a pas tout le temps, mais souvent été dans un gouvernement ou une organisation qu'elle a un passé, puis dans ce passé-là, c'est pas tout le temps 100% vert. Je te dis pas que c'est. Je te parle pas de corruption, rien de ça, juste le bilan gouvernemental, qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de l'avoir, cette course à la chefferie-là, puis vers où ça va s'aligner. Tu parles d'économie, puis de région, là. Ils ont totalement perdu ce brand-là, le Parti libéral, parce que là, en ce moment, c'est la CAQ, puis le Parti québécois, beaucoup, qui occupe ce terrain-là. Mais, tu sais, le Make Liberal Great Again, là, ben, c'était ça dans le temps, là, dans le temps de Bourassa, puis tout ça, c'était le Parti de l'économie, les régions, puis ça marchait fort, puis ils ont rentré fort à cause de ça.
Mais quand même, quand la CAQ est rentrée, il y avait un surplus, là. Il y avait un gros surplus que les libéraux avaient laissé en place. Ils ont tous dilapidé ça, là. Puis même les surplus, souviens-toi, Hydro-Québec, en raison d'un mauvais calcul, il avait surchargé les Québécois. Je pense que c'était 1,7 milliard de dollars. À ce moment-là, tu avais un François Legault qui était à l'Assemblée nationale, qui était dans l'opposition, qui criait en disant « Vous avez volé les Québécois! Vous allez rembourser les Québécois! » Puis une fois que lui arrive au pouvoir, ils nous ont remboursé juste la moitié de ce montant-là pour dilapider le reste.
Oui, l'histoire des médecins aussi, des médecins spécialistes. Les
médecins spécialistes, c'est la même chose.
Mais écoute, le gouvernement de Couillard s'est fait malmener parce qu'ils ont fait une. Là, je mets des air quotes pour les gens qui ne nous voient pas, mais de l'austérité là, ou de l'austérigueur. Là. Puis là, la mise à jour économique, Dans le fond, le ministre Girard dit ben, statu quo, 11 milliards dans le trou, puis ça va parce qu'on a fait un peu mieux, mais on a plus dépensé. OK, c'est ton choix. Les syndicats sortent, bang, même dans l'après-midi. On retourne à l'austérité, puis c'est un gouvernement qui coupe les dépenses. Là, j'étais tabarouette, dans quelle réalité qu'on vit qu'on dépense 11 milliards de plus que le budget, ouais. Mais c'est de l'austérité.
Puis il y a un gros budget. On est dans le trou au niveau structurel. Mm-hmm. C'est un déficit structurel. Je pense qu'on est autour de 5 milliards. Ça veut dire que la machine coûte trop cher, puis elle rapporte pas assez. Mais on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord. Pourquoi le public a de la misère à s'inspirer du privé? Hein? Pour ce qui est de la réalisation des projets, là. C'est la façon de faire d'une entreprise qui réussit bien. On dirait que c'est pas. On dirait qu'il n'y a jamais un fonctionnaire que jugeait bon de dire hey, on va aller voir cette entreprise-là. Elle fait les choses convenablement. Ça semble toujours bien aller. Pourquoi on ne s'inspirerait pas de son modèle?
Bien, il y a ça. Là, ça s'appelle le nouveau management public. Là, puis là, c'est de la théorie de Sciences Po un peu plate. Là, mais oui, il y a ce mouvement-là depuis, mettons, une trentaine d'années. Sauf que ça.
Ils vont l'appliquer quand?
C'est ça. C'est difficile à faire prendre. De l'attraction, dans le fond, dans le gouvernement, parce que c'était une mentalité un peu plus, justement, service privé, puis etc. Mais c'est pas vrai que c'est toujours rose dans le privé, parce que en fin de semaine, je jasais avec un chum qui a été dans l'environnement de Lyon, OK? Je dis pas quoi puis comment, je veux pas le faire identifier, mais...
Il est-tu rendu millionnaire aujourd'hui?
Il est honteux ou...
Non, mais lui, tu sais, mettons...
Tu vois qui pense quoi?
Il était là, mettons, pour que ça aille mieux un peu, là, puis finalement...
Il a été appelé pour rattraper le projet, peut-être? C'est ça que tu...
Mettons, tu sais, je veux pas trop, là, en tout cas, je sais pas à quel point c'est facile d'identifier ce qu'il a fait ou pas.
Il est-tu sorti plus pauvre ou plus riche? C'est tout ce que je veux savoir.
Il a été rémunéré pour ses services, mais pas en actionnariat, puis tout, là, tu sais, c'est un...
De toute manière, en actionnariat, Yannick, ça donne quoi?
Ouais, en ce moment, ça donne pas grand-chose. Mais bref, tout ça pour dire qu'il dit, tu sais, c'était l'asile. On savait même pas c'était quoi le coût des produits qui étaient vendus. On lançait des lignes d'affaires qui étaient même pas calculées d'avance. Les pièces étaient toutes commandées à la dernière minute. Fait que ça faisait des délais dans la livraison. C'était une business qui était basée simplement sur c'est quoi le prochain projet. C'est quoi la prochaine idée qui va sortir, qui va faire qu'on va sauver les meubles. Puis on a vu des gens faire ça dans d'autres domaines comme l'immobilier, qui sont pétés à gueule. Puis en tout cas, je veux pas revenir sur ça. Mais le prochain projet, c'est ça, c'est là-dessus qu'on va se faire de l'argent, tu sais. Mais quand tes projets que tu as déjà lancés, quand je dis des projets, des lignes d'affaires, des produits, puis que tu les as même pas pricés, puis qu'ils sont déficitaires, ben tu as beau en vendre toujours plus, ben tu vas faire toujours moins d'argent, puis c'est ça qui s'est passé là-dedans. Fait que quand tu ramènes ça au gouvernement, cette mentalité-là est pas parfaite au privé, mais il y a quand même des règles de management de base qui doivent être respectées. Puis en général, ça va pas si mal que ça au gouvernement dans les ministères. C'est que dans l'ensemble de toute l'addition de tous les ministères et toutes les décisions souvent politiques, là, ça devient vraiment... compliqué.
C'est qu'on a l'impression, David, qu'il n'y a jamais rien qui avance. Surtout tout ce qui est à l'est de Montréal, on a l'impression que c'est long. Tu sais, souviens-toi, juste pour ce qui est du prix de l'essence. Là. Mm-hmm. Prix de l'essence à Québec. J'ai l'air bizarre, je sais juste de ma côté, c'était plus beau que je pensais. Prix de l'essence à Québec, OK? Ça fait des années qu'on paye plus cher notre essence à Québec que dans les régions qui sont avoisinantes ou encore même Montréal parfois, puis même Saguenay. Ça a pris un député de la Beauce, dans le fin fond de la Beauce. Je perds son nom, peut-être que Pascal me le rappellera dans les prochaines secondes. Là. Mais c'est un député de la Coalition Amérique Québec, Samuel Poulin, qui a dit à Pierre Fitzgibbon, « Voyons donc, Pierre, comment ça on paye l'essence plus cher ici qu'ailleurs? » Ils ont comme dégelé toute la même journée. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a donné? On paye encore aujourd'hui l'essence plus chère qu'ailleurs.
Ouais, ça, je comprends.
C'est tout le temps long. Mais quand ça arrive à Montréal, par exemple, ils réagissent tout de suite.
C'est sûr que la vie politique, c'est une question de levier aussi. T'sais, plus tu as de population en arrière de toi qui appuie ça, puis tu as des potentiels de vote. Je veux dire, je suis en train de faire une vérité de la palisse, là, tout le monde sait ça. Là, mais... Puis tu sais, la vie, c'est du lobbying, finalement. Parce que quand tu es un groupe d'intérêts, que tu sois dans le privé, dans le public, communautaire, organisationnel, plus tu as de levier, plus tu as de population en arrière de toi puis de gens qui peuvent voter, plus tu as de levier pour faire de l'influence. On est d'accord, c'est un principe de base. Puis on dirait qu'on est prêt à sortir de ça puis de l'identifier clairement. Il y a beau avoir le registre des lobbyistes puis tout ça, ça c'est de l'influence directe, souvent par le privé, mais l'influence indue par rapport à juste le poids de ce que tu représentes dans la communauté, celle-là, on la considère jamais, mais très, 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 très puissante. Là.
David Chabot, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Merci.
Merci beaucoup. 13h36, on vient. Marceau